Bonjour, professeur Jacques Djoli.
Bonjour.
Quelle analyse constitutionnelle ou politique faites-vous des reniements, allégeances et démissions en cascade à la suite de la dissidence créée par le groupe des sept partis anciens membres de la majorité présidentielle?
Merci beaucoup, monsieur Jeff Ngoy. La première chose que nous devons relever, c'est la vitalité de l'activité démocratique de notre pays. La Constitution, voire notre pays, se proclame être une république démocratique. Et dans l'identité constitutionnelle de notre pays, il y a cette question de pluralisme politique. Et les partis politiques jouent un rôle clé. Il était fait que par le système électoral, nous avons une scène politique dominée par une pluralité de partis. Il y a même une inflation. On a atteint un nombre qui avoisine aujourd'hui 500 partis politiques.
Est-ce que ce pluralisme intégral est normal?
C'est normal pour la naissance, n'est-ce pas, d'un système politique. Mais c'est aussi normal à cause du mode de scrutin. La proportionnelle provoque un émiettement du pays. Comme je vous ai dit qu'il n'y a pas un soubassement idéologique, ben ce sont des intérêts opportunistes ou situationnistes. Et la conséquence, c'est cette transhumance politique, cette mobilité négative de la scène où les acteurs sont dominés par l'intérêt personnel plutôt que la cohérence et la puissance de l'idéologie.
Dans ce cas-là, qu'adviendrait-il au mandat d'un parlementaire qui fait allégeance à l'autorité morale autre que celle de son parti politique dont il est l'émanation?
La logique juridique de notre système de parti est claire. On est élu sur la liste d'un parti. Et la Constitution nous dit que lorsque on a quitté volontairement son parti, eh bien, vous perdez le mandat que vous avez obtenu sous le label de ce parti. Donc, on est élu soit comme indépendant, malheureusement, 28% de membres de nos parlements sont des indépendants ou de chefs de partis unipersonnels, c'est-à-dire ils ne sont que eux-mêmes. Les partis sont très faibles. Ce sont des partis qui sont pour la plupart dirigés et contrôlés par l'autorité morale. C'est lui qui les a aidés très souvent à se faire élire ou même ils se font élire eux-mêmes. Donc la consistance idéologique et la cohérence organisationnelle sont très faibles. Ce qui fait que l'autorité morale d'aujourd'hui peut être dépassée par une nouvelle autorité morale, celle qui lui donne la fonction ministérielle ou la fonction dans les entreprises ou autres. À partir de ce moment-là, lorsque vous demandez à un membre de parti de suivre la ligne du parti, il regarde d'abord le poste, le caractère juteux du poste.
Il voit ses intérêts.
Et c'est ça, malheureusement, la situation. Et le texte juridique lui-même ne nous aide pas parce qu'on dit c'est lui qui aura quitté volontairement parti.
Et s'il ne quitte pas volontairement son parti et utilise une autre stratégie pour conserver son mandat?
C'est une façon de quitter, tacite, de quitter à moins que la Cour constitutionnelle puisse nous éclairer, qu'elle ne puisse pas non plus nous dévoyer. Donc, la Constitution dit tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire détenu dans le cadre du parti. Ici, nous voulons saluer la démarche d'un parti, le MSR, où pour une fois, on voit quand même que sur la scène nationale, un parti a pris une option et deux membres qui sont au gouvernement démissionnent d'eux-mêmes ou qui sont dans les autres institutions de la République. Je crois que c'est une lueur d'émergence des partis politiques structurés autour d'un certain nombre de valeurs, de principes et d'idéologies.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre mécanisme juridique pour contrarier celui qui désobéit à la ligne politique de son parti politique et refuse de libérer son mandat?
Deux pistes de réponse. Première piste, d'abord, c'est au niveau du parti. Ce sont des structures personnelles où tout tourne autour de l'autorité morale qui, parfois, comme on a remarqué, sont des ayatollahs. Ce qui fait que le parti n'est pas lui-même démocratique et les structures du parti ne fonctionnent pas. À partir de ce moment-là, naturellement, il est parfois difficile aux membres d'un parti d'obéir comme dans une sorte de caporalisation à des oukases, n'est-ce pas, émanant de l'autorité morale. Dans ces cas-là, la loi sur les partis politiques prévoit des mécanismes de règlement des conflits, c'est-à-dire c'est le tribunal de grande instance qui doit résoudre un problème. Voilà une première piste. Une deuxième piste, c'est lorsque alors le parti s'est régulièrement réuni compromis. Et il y a eu une discussion saine et qu'il y a eu une déclaration formelle des instances du parti qui prennent une ligne politique. À ce moment-là, par décence politique et aussi par obligation constitutionnelle, c'est lui qui ne partage plus la ligne du parti à l'obligation morale de remettre le mandat du parti. Parce que nous ne sommes pas élus juridiquement à titre personnel, à moins qu'on soit indépendant. Et dès lors que votre parti politique se retire conformément au droit ou prend une telle ligne et que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez quitté délibérément. Et la décence commande qu'il faudra remettre le mandat du parti pour chercher maintenant un nouveau mandat sous le label de la nouvelle autorité morale à laquelle on fait allégeance. Le droit constitutionnel, c'est un ordre constitutionnel des gens civilisés. Ce n'est pas un droit de mécréants ou de voyous comme le droit pénal ou autre. C'est-à-dire, lorsqu'on ne partage pas la conviction d'un parti, vous ne pouvez pas devenir un électron libre. Vous n'êtes plus parti de l'opposition, vous avez entré dans la majorité. La moindre chose, c'est de remettre le mandat des autres. C'est vrai qu'il y a une déception lorsqu'on voit des reniements, comme vous l'avez dit. Ces reniements montrent aussi qu'il est difficile d'asseoir une démocratie dans un contexte de pauvreté.
Les partis politiques sont-ils une affaire d'argent ?
D'affaire d'argent, c'est pourquoi il faut avoir une vision globale. Au-delà de la Constitution, de la loi sur le parti politique, il y a aussi des textes qu'il faut rapidement mettre en musique. C'est par exemple la loi sur les financements des partis politiques, la loi sur l'opposition. Voyez un exemple de texte qui aurait pu permettre à l'opposition de se structurer solidement.
Pourquoi l'opposition politique n'a toujours pas son porte-parole jusqu'à ce jour?
C'est parce que la majorité qui contrôle le jeu politique met un obstacle à ce que l'opposition ne s'organise pas. Depuis 2006, on ne peut pas installer une démocratie sans des démocrates.
Professeur Jacques Djoli, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.